France Musique.
Bonjour à tous. Vous le savez peut-être, il y a deux modèles de violonistes, les représentants de commerce et les tziganes. Les représentants de commerce sont froids, implacables en affaires, ils ont toujours un œil sur la carrière, type Yasha et Fetz. Et puis les tziganes, ils sont imprévisibles, fantasques, toujours un pied en voyage, toujours une folie dans le regard, type Ivry Gitlis. Mon invité du jour, il est bien du deuxième modèle, je dis bien le deuxième modèle. Oui, mais enfin, il est arrivé à l'heure, il m'a même amené des disques comme je lui avais demandé. Serait-il pas en train de se transformer? Nous sommes jusqu'à 13h avec Laurent Corsia.
Thank you.
C'était l'ouverture du concerto pour violon de Korngold, de Laurent Corsia était en soliste, Jean-Jacques Kantorov dirigeait l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Bonjour Laurent Corsia.
Bonjour Lionel.
Grand plaisir de vous avoir dans cette émission aujourd'hui pour parler de tout un tas de choses. Vous nous avez même amené, je le disais tout à l'heure et c'est vrai, des disques de choses de violonistes que je ne connais absolument pas. Mais auparavant, il faut peut-être rectifier mes bêtises d'ouverture. Y a-t-il vraiment deux types de violonistes, le représentant de commerce et le Tzigane?
Ah si, oui, ah, elles existent, ça, oui. Ça c'est sûr, mais Yasha Heifetz et les violonistes de cette époque n'étaient pas là dans cette vision des choses, ouais. Justement. Donc Yasha Heifetz, c'était un être à part, il était tellement seul au monde qu'il, je pense pas qu'il se souciait ni de sa carrière, ni de choses comme ça, il avait une intégrité qui était totale, et... Oui, non, c'est aujourd'hui plutôt qu'il y a deux manières d'envisager la musique qui sont tellement à l'opposé de justement cette époque. Moi, je suis un peu réactionnaire. Je pense un peu que c'était mieux avant. Mais je le pense parce que j'ai quand même des oreilles et je vois ce qui se passe. C'était vraiment bien avant. Et ces gens comme Heifetz, Kreisler, c'était des violonistes et bien d'autres, qui étaient justement en dehors de ça. Aujourd'hui, enfin bon, on en reparlera un peu plus tard.
Ouais, mais aujourd'hui, on a l'impression comme cette idée entre le professionnalisme qui est nécessaire, comme si finalement le côté métier avait pris le dessus à certains moments, non?
Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a deux grands courants d'interprétation, enfin de petits courants, c'est-à-dire des interprètes qui jouent d'une manière assez monotone et conventionnelle, tout en prenant des airs pénétrés de musiciens remplis de musique. Enfin bon, ceux qui me comprennent auront compris. Et puis il y a d'autres qui ont une manière de justement peut-être par de prendre une orientation un peu extrême, c'est-à-dire de rechercher une originalité et une extravagance qui fait que bon, peut-être ce sont des gens qui se cherchent. Il faut bien se chercher pour se trouver. Mais du coup, je trouve que la musique n'y gagne pas parce qu'on est face à des numéros de démonstration d'ego, voilà. Et donc, ce sont ces courants que je vois aujourd'hui dans ce qui se profile dans la manière d'envisager, d'interpréter la musique. Et c'est ce qu'on n'avait pas du tout avant.
Et pourtant, on a l'impression, justement, que j'ai dit, c'était très personnel, les interprétations aussi, et que la personnalité de l'interprète passait parfois au premier plan, même devant l'œuvre.
Mais bien sûr qu'elles étaient personnelles. Il faut qu'elles soient personnelles. Mmh. Aujourd'hui, je trouve pas qu'elles sont personnelles. Elles sont soit très fade, soit assez éclaté. Quand je dis personnel, c'est bien évidemment un interprète doit proposer quelque chose de personnel. C'est ce qui. Mais entre une démonstration d'un ego et quelque chose de personnel, parce que c'est ressenti, parce que c'est intrinsèquement ce qui fait ce que les gens sont, c'est différent.
Ouais. On va écouter un disque dans ce qui suit Laurent Corsia. Vous reconnaîtrez sans doute la personne qui joue. Peut-être pas, on va voir. Tiens, petit test. Thank you. Si bizarre, mais si beau, dithyrambe qui referme le duo concertant d'Igor Stravinsky. On entendait là, au violon, Michel Auclair et au piano, Geneviève Joie. Alors on est tombé là-dessus et on est, je crois, pas trop mal tombé, Laurent Corsia.
Ouais, parce merci que... Lionel, je ne connaissais pas cet enregistrement.
Michel Auclair était votre professeur au CNSM de violon et Geneviève Joie, votre professeur de musique de chambre.
Exactement.
Vous avez les deux réunis là.
C'était vraiment deux grandes copines, c'était de... On peut dire des, on peut pas féminiser, on peut pas dire des larronnes en foire, mais elles étaient copines comme cochons, on peut dire. Elles étaient très marrantes toutes les deux, absolument. Et c'est drôle parce que elles étaient assez acerbes, enfin dans leur manière de parler des gens du monde musical en général ou des gens. Et je me souviens qu'elles disaient souvent. Elle disait souvent, en parlant de d'autres personnes, moi j'étais un peu le chouchou, elle parlait pas de moi, mais elle disait, en fait, ils jouent comme ils sont. Je comprenais pas cette phrase, et en fait c'est vrai, ça se révèle assez vrai, les gens jouent comme ils sont, même physiquement, c'est assez curieux. Il y a des choses qu'on ne peut pas trahir, pas cacher.
Mmh. Mais ça dépend un petit peu de... Oui, ils jouent comme ils sont, ça peut être aussi... ça peut bien tomber, quoi.
Oui, ça peut bien tomber aussi, oui. Bien sûr.
Elle était comment comme professeur, sinon, Michel Auclair? Enfin, qu'est-ce qu'elle vous a passé de plus fondamental, vraiment?
Bah, la chose vraiment, c'est que c'était la rigueur qu'elle m'a passée. Moi, je l'ai rencontrée, j'avais 12 ans. Je suis sorti d'une voiture pour la rencontrer un été, parce qu'elle avait entendu parler de moi, elle voulait me rencontrer, et je crois que c'est Pierre Barbizet qui lui avait parlé de moi, et je suis arrivé, j'avais vomi mes tripes dans le voyage, je suis arrivé tout blanc, comme ça, et je jouais très mal, enfin, c'est pas que je jouais très mal, mais je ne savais rien. Elle m'a demandé à la manière des profs russes ou d'un Yasha Heifetz, par exemple, de lui jouer une gamme entière. Je l'ai regardé avec les yeux écarquillants. Je disais, je sais pas ce que c'est. Donc, elle a pris son papier. Elle, c'était déjà le grand professeur du Conservatoire de Paris. Elle a pris son papier. Elle a écrit une portée. Elle a montré premier doigt, troisième doigt, pour m'expliquer ce que sont des tierces. Des tierces, pour ceux qui connaissent pas le violon, c'est des doubles cordes. C'est quelque chose qu'on travaille pour justement muscler la main, pour acquérir une souplesse et une force. Et moi, j'étais un espèce d'enfant potelé livide qui suis arrivé, qui jouait une gamme à deux octaves, et voilà. Mais ceci dit, elle a cru en moi, et deux mois après, je suis rentré au Conservatoire de Paris, et le morceau imposé, c'était Concerto de Paganini, qui est plein de tierces.
D'accord.
Parce qu'elle m'a énormément fait travailler. Elle me prenait 3-4 fois chez elle par semaine. Je passais des après-midi entières chez elle, où elle donnait des cours, mais entre deux cours, elle venait. Moi, j'habitais, je travaillais dans sa cuisine, qui était une pièce qui devait faire 50 mètres carrés, pleine de films, parce qu'elle était mariée avec Armand Panigel à l'époque, qui était dans, voilà. D'accord. Et donc, ils avaient une collection de films extraordinaires. Ils avaient un appartement magnifique, et je passais mes journées là-bas à travailler. Donc, elle m'a appris, d'accord, les tierces, mais. cette rigueur de travail et puis cette elle, je crois qu'elle a vraiment cru en moi, et donc à partir du moment où quelqu'un croit en vous, vous êtes un peu porté.
Ouais.
Et j'ai été vraiment porté par ça.
Mais comment ça, si vous dites au moment où elle est venue vous voir parce qu'elle avait entendu parler de vous, vous ne saviez rien, vous saviez bien un petit début de quelque chose.
Non, je veux dire, j'étais pas du tout un enfant prodige, j'étais très instinctif, très intuitif, j'avais un rapport à la musique très il me semble assez sincère, et j'étais un bon petit gars quoi qui aimait la musique. Mais je n'avais pas des connaissances instrumentales très, très poussées.
D'accord, c'est ça. Il vous manquait encore quelques trucs à voir. Vous avez cité une personne qu'on va entendre là. Tiens, justement, c'est Pierre Barbizet. Thank you. Extrait de la troisième sonate de Johannes Brahms au violon, c'était Christian Ferras, je l'ai même pas annoncé tout à l'heure, et au piano Pierre Barbizet, parce que c'était pour lui aussi et avant tout, parce que vous l'avez bien connu et rencontré très jeune, je crois, Pierre Barbizet, hein, Laurent Corsia.
Ah oui, je l'ai rencontré très jeune. Ben, en fait, j'ai passé 6 mois quand j'avais 11 ans au Conservatoire de Marseille.
Mmh. Et... Donc il était directeur ?
Oui, oui. Là aussi, c'était une histoire un peu marrante. Pourquoi je me suis retrouvé là? En fait, j'avais 3 ans de violon et je m'étais inscrit en classe de préparatoire à l'époque. Une préparatoire, c'était quand vous aviez 3 ou 4 ans de violon. Et donc, on m'avait inscrit à Marseille parce que moi, j'habitais Draguignan. Et puis, ma mère s'était trompée. Elle avait pensé que je devais passer 2 concours préparatoires et élémentaires. C'était des classes de quasi débutants. Et en fait, j'avais présenté élémentaire et préparatoire qui s'appelait préparatoire supérieur. En fait, c'était une classe destinée aux gens qui avaient déjà la médaille d'or.
D'accord.
Et qui faisait un 3e cycle, ce qui n'existait pas encore, espèce de cycle de... voilà. Et ils m'ont pris dans ce... Moi, j'ai présenté ce truc de préparatoire. Ils m'ont pris dans cette classe. Et donc, Pierre Barbizet m'a beaucoup aimé. Et on a fait beaucoup de concerts ensemble.
Ah oui, oui, c'est ça aussi.
Ouais, donc moi, je trouvais que c'était naturel à 13 ans de faire des concerts avec lui. Mais c'est aussi la marque d'une certaine époque de gens qui avaient une générosité, une c'était au-delà du sens de la transmission, c'était une forme de naturel à aimer et à aider les gens. Mmh. Et je crois qu'il s'est pris de sympathie pour moi et j'ai fait plein de concerts avec lui.
Vous dites de naturel, mais c'est vrai, quand on écoute Pierre Barbizet, alors ici dans le Brahms qu'on vient d'entendre là, mais aussi évidemment lorsqu'il est en piano solo, il y a cette espèce de spontanéité. On a l'impression que la musique, elle coule là, des doigts comme ça.
Ah oui, il y a une spontanéité, il y a une intelligence, il y a un naturel. Mais le bonhomme était un personnage carrément captivant, quoi. C'était un peu un personnage de des nouvelles de Marcel Aimé ou de Jules Renard. Il avait un physique déjà assez particulier. Ouais. On aurait dit qu'il avait été dessiné quelque part. Et puis, il avait une générosité. Vraiment, c'est ça qui transparaît. Et puis, un rayonnement. Mmh. Et ça, c'est...
Puis un côté un peu ogresque aussi en même temps, hein. Enfin, ogresque, c'est un petit peu trop, mais...
Oui, c'est-à-dire, un peu amoureux de la vie, des choses de la vie, de plein de choses. Donc débordant, oui.
Ouais. Christian Ferras aussi, bon, on va pas nommer que le pianiste quand même, le violoniste, dont je ne sais pas là, ce que vous en pensez, mais je me suis dit qu'a priori, c'est un violoniste que vous deviez apprécier quand même.
Ah bah bien évidemment, je l'apprécie, sauf qu'il m'angoisse un petit peu maintenant, ah oui. Je l'ai beaucoup écouté. Attends, comprenez-moi bien, ce qui m'angoisse, c'est la tragédie de sa vie. Et que je ressens, d'ailleurs pas dans ce morceau là, on a l'impression qu'ils ont joué ça, qu'ils ont enregistré ça un dimanche matin de printemps, ils jouent assez lentement, c'est très doux, c'est très suave et c'est très tranquille, à l'opposé de ce qu'on connaît un peu de Christian Ferras, qui était quand même assez incandescent. Ouais. Et non, si vous voulez, je l'aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui m'angoisse, c'est ce côté tragique. Un vibrato très serré, une manière de psalmodier les phrases qui est à la fois intense mais presque insoutenable.
Mmh. Ça reconnaît tout de suite un violoniste. Pour un violoniste, pour quelqu'un d'autre, on ne sait pas trop ce qu'on entend, on sent les choses, mais vous savez tout de suite quel est le type de voix qui parle.
Oui, surtout dans cette génération-là. Ouais. Oui.
On sait. Du vibrato très serré, rien qu'avec la mesure du vibrato, j'ai l'impression qu'on sait beaucoup de choses.
C'est vrai.
Sur la personne, enfin sur qui joue, tout simplement.
C'est sûr. Mais non, c'est évidemment une grande figure du violon, Christian Ferras. Mais ça me fait de la peine, en fait, de son histoire.
Ouais, et ça ressort à chaque fois que vous l'entendez, en fait.
Oui, c'est vrai.
France Musique. Alors je le disais en ouverture, Laurent Corsia, vous nous avez amené un disque aujourd'hui. Alors c'est très curieux ce disque, on connaît un peu les œuvres, oui bien sûr, on connaît pas le violoniste, je dis pas son nom, et vous nous raconterez sinon son histoire, du moins votre histoire à lui juste après. Thank you. ainsi la Banera, enfin du moins les premières mesures de cette œuvre de Sarasate, jouée par un certain David Nadien. Alors il va nous en parler dans un instant, Laurent Corsia. Je signale quand même qu'on allait ressortir le vieux tour de disque qu'on avait, ça fait des, j'ai l'impression des années qu'on l'a pas utilisé, en tout cas dans le magazine, c'est pour ça que ça craquait un peu. C'est bien un 33 tours que vous nous avez apporté, Laurent, autour de ce violoniste. Alors, grande honte pour moi, David Nadien, je sais pas d'où ça sort, je vous connais pas.
Mais il n'est pas honte, personne ne le connaît.
Ah bon, ça va.
Enfin,
alors.
Moi je l'ai découvert l'année dernière, j'ai acheté ses disques à Los Angeles. Et j'ai eu une découverte, mais absolument inouïe en entendant ce violoniste. Pour moi, ce n'est pas loin d'être le violoniste idéal.
D'accord.
C'est-à-dire, bon, moi, il y a deux. On parlait tout à l'heure de courant de violonistes. Il y a deux violonistes que j'ai toujours aimé par-dessus tout. C'est Fritz Kreisler et Yascha Heifetz. Qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Enfin, Heifetz, c'est vraiment c'est un solitaire. C'est comme une étoile inaccessible qui a élevé le niveau du violon et de l'intensité à son paroxysme. Il est d'un mystère et d'une. Enfin, on ne comprendra jamais. Et il y a quelque chose de très inaccessible, oui, chez lui. Et presque inhumain, en tout cas surhumain. Et Fritz Kreisler, c'est très différent. C'est quelqu'un qui a une chaleur, une simplicité, une fraternité dans le son, une espèce de bonhomie, un sourire. Heifetz, il a pas de sourire, il a de la colère. Et si vous voulez, c'est deux violonistes que j'aime par-dessus tout. J'ai l'impression que David Nadien réunit cette synthèse d'une manière de jouer extrêmement simple, humaine et fragile et sensible, avec une implacabilité et un son et un vibrato tout à fait dans la veine d'un Yascha Heifetz.
C'est vrai qu'il y a quelque chose à la fois, enfin, peu que j'ai pu en entendre ici, à la fois très chic, et puis d'une très grande intensité, presque farouche même. Certains accents très mâles.
Il a un son, il y a vraiment quelqu'un, il y a quelque chose qui quand je l'ai entendu, il est devenu avec les deux autres dont je vous ai cité
le troisième
mon violoniste favori.
Il date de quand ce monsieur Nadien que
il est né en 1926 et il est mort, figurez-vous, l'année dernière à New York. Quand je pense à toutes les fois que je suis allé à New York, je marchais dans les avenues sans but et que j'aurais pu le rencontrer, je crois qu'il donnait des cours, il vivait d'une manière très simple.
Mais qu'est-ce qu'il a fait comme carrière pour qu'on n'en entende pas parler comme ça?
Il a été violon solo de l'orchestre de New York, de Leonard Bernstein, pendant 4 ans. Et je pense qu'il jouait trop bien et que ça a dû déranger certaines personnes qui avaient le pouvoir aux États-Unis à l'époque.
D'accord, certaines personnes, vous pensez à une en particulier?
Oui, on peut penser à la même, mais maintenant je suis pas vraiment dans les détails de cette histoire, mais en recoupant certaines histoires, certaines anecdotes que lui n'a pas racontées, parce qu'il était d'une grande modestie et d'une grande pudeur, il est assez clair qu'il a été stoppé dans son élan par d'autres.
Le salut d'amour, on va retrouver donc.
Alors je voulais qu'on. Votre assistant me disait qu'on n'a jamais passé David Nadien sur France Musique.
Enfin, si, peut-être, mais pas moi en tout cas.
Non, mais depuis, puisqu'il n'y a pas de disque de David Nadien dans la bibliothèque, et je me suis dit qu'on pourrait écouter encore un peu de David Nadien. Alors là, c'est un peu l'invitation au voyage de Baudelaire, ça me fait penser un peu à ça, c'est tout n'est que.
Luxe, calme et volupté,
voilà, c'est ça. Etc.
Thank you.
Edouard Elgar, Salut d'amour, c'était donc David Nadien avec au piano, comme tout à l'heure, Boris Barrère, le choix du jour. Merci en tout cas Laurent Corsia de nous avoir fait découvrir ce violoniste-là que moi, je ne connaissais pas.
C'est très étonnant. Chose,
ah oui, vraiment. Hein. Et tout en 33 tours, bien sûr, il n'y a rien en CD de lui.
Pardon ?
Il n'y a rien en disque compact.
Il y a un gars à Las Vegas qui s'est occupé de mettre sur CD des choses de lui. Il y a une seule vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, c'est un solo de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Faut le voir pour le croire, hein. À tel point c'est hallucinant. L'intensité et le flegme, ouais. Réunis.
Et puis l'intensité, vous dites bien, ça se sent vraiment sur un son. Bon, très bien. C'était David Nadien, notre découverte du jour, la mienne. Le questionnaire de Proust, il a à peine répondu, Laurent Corsia, il voulait. Vous n'avez pas parlé de vous, c'est ça ?
Bah non, je m'intéresse pas tant que ça. Et je pense, c'est pas seulement ça. Je pense pas que ce soit intéressant pour vos auditeurs.
Bah oui, mais c'est une manière de parler de soi sans en parler. Vous savez bien le questionnaire. Ou au contraire, de n'en pas parler en parlant d'autre chose. Bon, allez, on va essayer trois questions.
M'as-tu pas vu, vous voyez ?
Ah oui, c'est vrai. Bah pour un soliste, c'est pas possible.
Oui, c'est vrai, c'est paradoxal.
Un peu quand même. Parce que quand on se met sur scène, c'est pour être vu, non ? Ou c'est juste pour montrer la musique ?
Je sais pas. Enfin bref.
Allez-y, commencez. Votre occupation préférée, Laurent Corsia ?
Ah bah ça dépend, plein de choses. Ça peut être plein de choses, ça peut être de faire de la cuisine, d'aller au cinéma, de voir des films, de rien faire, de ranger chez moi. En ce moment, je m'attelle beaucoup à ça. D'accord. Comme j'ai fait des travaux, j'ai plein de trucs dans les cartons, je m'en sors un petit peu pas, mais donc ça m'a permis d'ailleurs de classer plein de disques et je me suis séparé de la moitié des CD que j'avais.
C'est vrai.
Mais ouais.
D'accord. Vous en avez beaucoup tant que ça ?
Mais j'en avais plein. Et je me suis dit que je les écouterais jamais. En fait, ils étaient là dans des placards. À quoi bon ?
Ouais.
À quoi bon ? Je garde les essentiels. Et il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns, bien sûr.
Ah, mais ça, c'est une question d'âge, je crois, à un certain moment. Ouais, pendant un temps, on collectionne, et puis au bout d'un moment, on dit attends.
Oui, puis des choses que j'aimais beaucoup et que je n'aime plus.
Ah oui, ouais, on évolue en plus. Votre principal défaut ?
Ah, bon, je crois que j'en ai pas mal des défauts. Alors, vous voulez dire les défauts qui sont carrément là et installés pour toujours, ou ceux qui sont perfectibles ?
Ah, je ne sais pas. Donnez un de chaque, peut-être, pour voir.
Non, j'en ai pas mal, mais je travaille à évoluer, à changer. Mais bon, peut-être un défaut, c'est que je pense être un peu paresseux, quoi. Je trouve, j'aime bien ne rien faire.
Ouais. Comme vous ne faites rien, c'est pour l'imaginaire, pour penser à des choses.
C'est pour sentir le temps passer, pour faire d'autres choses, je suis assez paresseux. Ouais, je l'avoue.
Le don de la nature que vous voudriez avoir, le goût de travailler, donc du coup peut-être non. Donc, est-ce que c'est un don ça ?
Non, mais le goût de travailler, je l'ai quand même. Mais alors le don de la nature que j'aimerais avoir, peut-être la souplesse.
La souplesse.
Ouais, la souplesse.
D'esprit, de corps ?
Des deux. Les deux, mon capitaine. Ouais, la souplesse de corps, bien évidemment. On n'est jamais trop souple. Et d'esprit, oui. Parfois, je peux me heurter à des situations parce que je prends les choses un petit peu. Arriver à esquiver, être souple, être fluide. Voilà, je trouve que c'est intéressant, la souplesse. Ouais.
On va interrompre le supplice. Hein. Je vais vous faire écouter Laurent Corsia, un petit jeune plein d'avenir. Thank you. C'était le final de la quatrième, c'est la quatrième, je sais même plus,
sonate. Oui, c'est la quatrième.
C'est ça, hein, de Jeanne Isaïe, celle qui est dédiée à Fritz Reissler. Et c'était donc en 1994, Laurent Corsia, c'était votre premier disque. À l'époque, vous aviez 29 ans, me disiez-vous, hors micro, juste à l'instant. Bah non, ça date de 20 ans, tout juste, quand même, c'est pas rien. C'est une sacrée gueule, hein.
C'est pas mal.
Ah ouais. Oui, non, vraiment, hein.
Ouais, j'avoue.
Non, si vous avez un élève qui arrive comme ça et qui joue comme ça, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui?
Ah ben, je viendrai en parler chez vous.
Je me le présenter. En même temps, ça a l'air facile, quoi. Est-ce que c'était énormément, j'imagine, de boulot? Parce que c'est des sonates, on le sait, elles sont infaisables.
Oui, mais c'est aussi Isaïe m'a fasciné pendant très longtemps. Et son écriture pour le violon est quand même assez naturelle et excitante. Ouais.
C'est naturel, sous bien entendu.
Oui.
Bah, vous en reprenez.
France Musique.
Alors pour entendre Laurent Corsia au naturel, eh bien il faudra se rendre à Bagatelle, au musical de Bagatelle ce samedi lors d'un concert intitulé Hommage et mémoire. On va rappeler, puisque c'en est sa 8e édition, quel est le principe de ces musicales de Bagatelle. Laurent Corsia, mettre en lien toujours des maîtres et des jeunes qui arrivent, c'est ça, hein?
Voilà, c'est ça. Donc là je suis le parrain de ce concert. Avec des musiciens...
Tout plein, il a toute une masse.
Plein de musiciens, dont bien évidemment Saténé Courdoyan et Armel Courdoyan.
Alors ça, on va en parler juste après. Mais c'est vous qui les avez choisis ou c'est Marielle Nordman, la directrice du festival, qui vous a proposé ces artistes?
Oui, c'est une idée un peu de Marielle et puis aussi de Saténique Courdoyan qui avait l'idée de proposer un concert en hommage... pas pour célébrer, mais pour témoigner du 100e anniversaire du génocide arménien. Mmh. Donc le concert s'intitule...
Hommage et mémoire.
Hommage
justement.
Et mémoire, voilà. Et donc il y aura aussi des pièces de compositeurs qui ne sont pas arméniens. Il y aura Babadjanian, Komitas, Khatchaturian, et puis aussi... Allez savoir pourquoi, Ernest Bloch.
Ah oui. Ça, c'est un choix Corsia, ça.
Oui, c'est moi.
Et Béla Bartók, d'ailleurs, alors vous serez avec Béla Bartók, avec cette violoniste que je ne connais pas, Saténique Courdoyan, c'est ça?
Saténique Courdoyan. Oui. Que vous connaîtrez certainement très bientôt.
D'accord, elle a quel âge? Elle est toute jeune, c'est ça?
Elle est très jeune, j'ai apporté quelque chose pour qu'on l'écoute.
Absolument.
Ah, d'accord, je ne savais pas que vous étiez au courant.
Si, bah, si vous pensez bien.
C'est une violoniste absolument étonnante, enfin d'une grande noblesse, un jeu très 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 noble, très intense et en même temps très, comment dire, pas démonstratif. Ouais. C'est un peu la classe, on peut dire.
D'accord.
Mais puisqu'on parlait de que les gens jouent comme ils sont, si on voit une photo de Saténique, en fait on comprend qu'elle joue comme elle joue.
Ah, ben on va l'entendre. Et si on veut la photo, on va sur Internet et le tout d'ailleurs est sur YouTube. Thank you. C'est donc dans ce scherzo du récitatif et scherzo de Fritz Kreisler, le violon de Satanique Courdoyan que l'entendait là. Elle sera donc en concert avec vous, Laurent Corsia. Il y aura tout un tas d'œuvres et puis tout un tas d'artistes qui se succéderont à l'Orangerie du Parc de Bagatelle à l'occasion des musicales qui démarreront donc samedi, dureront pendant 2 jours. Et votre concert à vous, Hommage et Mémoire, ce sera donc à 19h. Vous vouliez me causer d'un autre violoniste?
Oui, non, je voulais vous parler, oui, parce que on parlait tout à l'heure des violonistes, de la manière d'interpréter aujourd'hui qui était moins enthousiasmante que peut-être avant. Mais quand j'entends Satanique, cette sophistication du son qui n'est pas quelque chose de... enfin, je veux dire une élégance. Il n'y a pas d'après, il y a quelque chose de très naturel, sans artifice. Artem Facere, faire de l'art. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens cherchent à fabriquer l'art ou l'interprétation d'une œuvre. Et chez elle, je ne le sens pas du tout. Il y a aussi un jeune violoniste dont je vous ai apporté un disque, mais je ne sais pas si on aura le temps de l'écouter.
Si que j'ai peut. Rencontré, ah,
si.
Peut-être semble-t-il, ou Antoine semble me dire que oui, si. Et là, qui est-il?
Il s'appelle Thomas Lefort, il a 20 ans, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il m'a offert son disque, et j'avoue avoir été vraiment sidéré par cette découverte d'un violoniste qui joue à l'ancienne, justement, avec une prise de risque et une urgence, que c'est quelque chose qui est un petit peu rare par les temps qui courent.
D'accord. On va essayer de l'écouter. On n'est pas sûr de pouvoir, hein, parce qu'on n'est pas sûr que la machine à disque marche. Quand on vous dit que c'est du direct, on vous ment pas, hein. C'était juste quelques mesures de l'ouverture du concerto de Mendelssohn avec donc le violon de Thomas Lefort,
voilà.
Ce jeune artiste que vous vouliez mettre en exergue de cette émission aujourd'hui. Laurent Corsia, vous en suivez beaucoup des élèves comme ça? Parce que vous n'êtes peut-être pas élève, celui-là en plus.
Non, c'est pas un élève, c'est un jeune que j'ai rencontré. Oui, je garde un peu les oreilles ouvertes sur les gens qui jouent comme ça.
Vous avez bien prononcé un mot tout à l'heure, enfin c'est il y a juste 2 minutes, Laurent Corsia, un mot simple, vous allez me dire, hein, celui d'artiste. Mais si on doit faire quand même un certain nombre des distinguos entre les musiciens, il y a quand même ceux qui se considèrent eux-mêmes avant tout comme des musiciens, et ceux qui se voient eux-mêmes comme à devenir artistique, d'artiste quoi. Vous êtes de quel côté, vous? Si il doit y avoir une différence entre les deux, vous allez me dire qu'il y en a
quoi. Ah, je dois dire que je me pose pas vraiment cette question. Et expliquez-moi ce que vous voyez comme distinguo entre les deux.
Ah, ce serait un peu compliqué. Voilà, vous me regardez avec un air comme ça.
Je vais être un peu opaque, là, j'ai rien compris. Non, mais, être artiste, c'est vraiment... les artistes qui se prennent pour des artistes sont très ennuyeux. Oui. Je pense que...
Mais on sent bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire développer quelque chose qui irait au-delà de la musique, qui irait au-delà de la pratique instrumentale, qui serait peut-être plus en lien avec la vie, fondamentalement, telle qu'on la vit au jour le jour, plutôt que simplement avec la musique, la carrière, le fait d'enfiler les œuvres et les concerts.
C'est sûr, mais je pense que on est plus artiste, avec des guillemets, malgré soi, que qu'en le décidant ou qu'en ayant cette conscience de l'être. Mmh. C'est quelque chose qui ne peut pas ne pas s'exprimer, et on peut être artiste dans plein de choses, nécessairement en exerçant une activité artistique, je trouve.
Celle-ci n'est que finalement, on va dire presque la trace visible. Il y a des personnes qu'on voit, une personnalité qu'on croise et qui sont immédiatement, on se dit, ça c'est d'une nature telle que, voilà. Alors qu'il y a des musiciens, on les croise dans la rue, ça a l'air de rien, et puis derrière, ils jouent magnifiquement. Voilà, peut-être la différence, non?
Oui,
ça n'a pas l'air de vous inspirer. Vraiment pas. On va vous retrouver, Laurent Corsia, et cette fois-ci, ce sera dans la musique d'Isaac Albéniz, Espagne. Musique d'Isaac Albéniz dans cette Espagna, troisième pièce du cycle Malaguena. C'était joué par Laurent Corsa, bien sûr. Notre invité aujourd'hui, du disque, Laurent, il en faut un petit peu quand même. Ça fait quelque temps qu'on n'a rien vu de vous. Est-ce que vous préparez quelque chose? Si vous pouvez pas me dire, vous me dites pas le détail, mais au moins, au moins le principe.
Si, il est enregistré, donc il va sortir dans quelques mois.
Ouais.
C'est, ne me demandez pas pourquoi,
Pourquoi quoi?
Le concerto de Brahms.
Ah, d'accord.
La 138e version, peut-être.
Il faut la faire quand on est violoniste.
Oui. Et puis, donc c'est opus 77 et opus 78 de Brahms. C'est-à-dire le concerto et la première sonate.
D'accord. Et qui sont vos partenaires?
C'est Zoltán Kocsis pour la sonate et aussi qui dirige son orchestre de Hongrie.
Qui est un magnifique musicien, hein. Enfin, il est très curieux en plus, qui va toujours chercher des trucs tout à fait étranges.
C'est un vrai génie, quoi. On
peut dire. Carrément.
Oui, oui. Ben, comme il n'y en a pas beaucoup, oui. Il y a, je sais pas, Radulupu, Martha Argerich. Enfin, il y a quelques ans, comme ça. Lui, c'est un pur génie du et pas seulement du piano, mais du de la musique. Enfin, de la, oui, de la globalité de la musique.
Ouais. Et pur génie, vous le sentez à quoi? C'est quand vous travaillez avec lui ou ça?
Ah oui, c'est une conception de l'univers sonore, de la globalité, de ce qu'il joue par rapport à, enfin, le sens du temps, le sens du discours. C'est quelqu'un qui s'arrête dans une répétition, qui te joue un opéra de Wagner, enfin pas un opéra, mais 5 minutes d'un opéra de Wagner par cœur, ou d'une symphonie de Brahms, ou qui peut tout jouer.
Et on a l'impression qu'il est immergé dans la musique, en fait, 24 heures
exactement,
sur 24.
Exactement, c'est assez rare. C'est un homme vraiment imprégné, ouais.
D'accord. Donc du coup, il faut jouer Brahms avec lui. Ce sera à paraître donc dans quelques mois. Vous viendrez me reparler, bien sûr. Hein.
D'accord.
Parce qu'il y a des choses à raconter aussi sur Brahms, hein, et ce soir, ce concerto. Vous avez voulu d'ailleurs donner une patte particulière ou c'est non. Simplement, on a joué comme ça avec lui, on ne sait pas.
Je ne sais pas.
On verra bien ce que ça donne. Le prochain concert de Laurent Corsia, c'est donc ce samedi au Festival des Musicales de Bagatelle. Concert qui sera repris, je vous le signale, le 13 juin à l'Arsenal de Metz et le 4 juillet au Prieuré Saint-Côme. Même programme à chaque fois. Et puis tous les artistes qui sont là, dont on a parlé un petit peu. Il y en a beaucoup d'autres. On ne peut pas citer tout le monde. Merci d'être venu nous voir, Laurent Corsia.
Merci, Lionel.
On referme avec Gershwin. Tiens, paf. George Gershwin, It Ain't Necessarily So, c'était Laurent Corsia qu'on entendait ici, accompagné par Michael Vandenberg au piano, extrait de son album Cinéma. Cette émission était préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Thomas Bizot et Benoît Latil. Vous nous retrouvez sur Internet, bien sûr, pour avoir toute la programmation de notre émission, nos invités futurs et passés, et puis nous réécouter autant que vous voulez. Je vous donne rendez-vous demain, ce sera vendredi, donc pas de magazine. Le casque et l'enclume, notre séance critique. À demain donc.